Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et nous y sommes. Bonjour Régis, bienvenue à Fréquence Mistral.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, ben nous reprenons nos émissions consacrées à l'actualité d'Amnesty International et l'actualité des droits humains en général. Dans cette émission, je vais vous parler, je vais vous lire d'abord l'édito de la présidente d'Amnesty International, qui est paru dans la chronique d'octobre, qui est le journal d'Amnesty International France. Ensuite, on parlera du sommet mondial des défenseurs des droits humains qui a lieu en ce moment à Paris. On parlera un petit peu aussi de l'Arabie Saoudite, hein, puisque c'est d'actualité, de la répression sanglante en Égypte et notamment du problème des ventes d'armes de la France. Ensuite, on parlera un peu quelques bonnes nouvelles et puis des activités du groupe de Digne. Voilà, on va commencer donc par un édito de Cécile Coudriou, qui est la présidente d'Amnesty International France, et qui nous parle du goût de la victoire. Cet été, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. Le 15 août 2018, Taner Kilic, président honoraire d'Amnesty International Turquie, est enfin libéré. Ce président d'Amnesty a passé 14 mois en prison, accusé faussement de lien avec le terrorisme. La joie est d'autant plus grande que la déception avait été rude en février, lorsqu'il avait été replacé en détention quelques heures après sa libération. Ça avait été notamment très dur pour sa femme et ses enfants. Pour tous ceux et celles qui, de la Norvège au Bénin, se sont mobilisés sans relâche, quelle émotion de voir Taner franchir les portes de la prison et serrer dans ses bras son épouse et ses trois filles. Cette émotion que nous avons pu avoir dit bien ce qu'est Amnesty International, un mouvement de personnes ordinaires animées d'une passion extraordinaire, combattre l'injustice et l'arbitraire, obtenir la libération de prisonniers d'opinion et de défenseurs des droits humains, faire progresser le droit. Le désir de gagner renforce notre détermination et notre persévérance. Il se nourrit, en un cercle vertueux, des résultats concrets obtenus grâce à notre mobilisation militante et notre travail de plaidoyer. Chakan, photojournaliste égyptien, évite la peine de mort. Tep Vani, militante cambodgienne pour le droit au logement, est libérée. Lui Xia, en résidence surveillée depuis 8 ans, peut enfin quitter la Chine. Le Liban se dote d'une loi criminalisant la torture. L'Inde dépénalise l'homosexualité. Voilà pourquoi nous nous battons, et ce dont nous sommes fiers. Il nous appartient à tous de valoriser davantage ce lien direct entre l'engagement au long cours, qui est le nôtre, et de tels succès. Le goût de la victoire est inscrit depuis toujours dans notre ADN et il est contagieux. La promesse de résultats sous-tend toute notre action en faveur de personnes victimes de violations de leurs droits ou de représailles liées à leur activité militante. L'opération annuelle 10 jours pour signer, au mois de décembre, la campagne mondiale brève, qui est sur les défenseurs, le soutien aux défenseurs des droits humains, ou encore ce sommet qui a lieu en ce moment à Paris, qui réunit plus de 150 défenseurs des droits humains du 29 octobre, donc aujourd'hui jusqu'au 31, sont autant d'illustrations. Cette même promesse est désormais au cœur de notre communication vers le grand public. Notre nouvelle campagne, diffusée sur les écrans de cinéma, à la télévision et sur Internet, porte comme signature la rage de vaincre. Sur une bande-annonce enivrante de Nina Simone, le spectateur est emporté par un irrésistible kaléidoscope d'images, de victoires et d'émotions intenses avant de découvrir le message final. On se bat ensemble, on gagne ensemble, rejoignez-nous. Frisson garanti, gageons qui donnera envie au plus grand nombre de s'engager avec nous pour la défense des droits humains. Voilà, c'est donc un appel. Venez nous rejoindre. Et plus on sera nombreux, plus on obtiendra de victoires et on fera libérer des personnes. On va maintenant écouter un disque, une chanson de Dominique Sista, qui a mis en musique un poème de Lucien Jacques. Alors Lucien Jacques, c'est quelqu'un qui est bien connu dans la région, puisqu'il a été le premier éditeur de Giono. J'ai eu un trou, excusez-moi. Donc c'était un grand ami de Giono. Hein. Et c'était un artiste multiforme, très grand aquarelliste. Mais il a fait toutes sortes de choses, de l'édition, de la gravure, de la peinture. Enfin, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Il y a eu une conférence à Digne il n'y a pas longtemps à la médiathèque, et c'était passionnant d'entendre un peu raconter sa vie d'artiste. Et puis aussi, on imagine qu'il avait un cœur très généreux. Sa maison était toujours ouverte et il faisait beaucoup de dons de ses peintures, etc., aux gens qu'il aimait. Donc, il a aussi vécu la guerre de 14-18. Il était brancardier et donc il a vu ce que l'homme pouvait faire à l'homme. Et en même temps, il a vécu des amitiés extraordinaires et de très belles choses. Donc voilà, c'est son credo à lui qui a été mis donc en musique et en chanson par Dominique Sista.
En l'homme, cette ordure, je crois en l'homme, ce fumier, ce sable mouvant, cette eau morte, en l'homme ce tordu, cette vessie de vanité. Je crois en l'homme cette pommade, ce grelot, cette plume au vent, ce bout de feu, ce fouille-merde. Je crois en l'homme ce lèche-sang. Malgré tout ce qui mortel et irréparable. Sûreté de sa main, pour son goût de la liberté, pour le jeu de sa fantaisie, pour son vertige devant l'étoile. Je crois en lui, pour le sel de son amitié, pour l'eau de ses yeux, pour son rire, pour son élan et ses faiblesses. Je crois à tout jamais en lui, pour une main qui s'est tendue, pour un regard qui s'est offert, et puis surtout et avant tout pour le simple accueil d'un berger.
Voilà, très belle chanson à partir du poème de Lucien Jacques, Credo de Lucien Jacques. Voilà, alors on va parler maintenant de ce qui se passe à Paris, qui a commencé aujourd'hui et jusqu'au 31. C'est une réunion de 150 défenseurs des droits humains qui viennent du monde entier et qui réclament une meilleure protection contre ceux, et ils sont nombreux, qui veulent les faire taire. Une période tumultueuse pour les droits humains. Au détour d'un communiqué sur la nomination de Michel Bachelet comme haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, effectif depuis le 1er septembre, Isha Diffan, en charge du plaidoyer Amnesty International, a trouvé le mot juste. Tumulte. Les imprécations de quelques-uns des dirigeants les plus puissants de la planète contre les défenseurs des droits humains font en effet du vacarme. À commencer par celle du russe Poutine et de l'américaine Trump. Poutine laisse mourir le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov dans une prison de Sibérie. Trump vitupère ceux qui viennent en aide aux migrants. Ce tumulte-là n'est pas que bombement de torses ou paroles en l'air sur les réseaux sociaux. L'environnement est ultra toxique et ultra dangereux. On assiste au rétrécissement des espaces de la société civile, des libertés d'expression, d'associations et de réunions. Et la récente élection au Brésil vient confirmer cela. Le péril est grandissant pour la sécurité même des défenseurs des droits humains, acteurs éminents et souvent porte-voix de la société civile. Il se mesure d'ailleurs avec de sombres statistiques. 312 personnes assassinées en 2017 pour avoir défendu les droits humains et environnementaux, contre 281 en 2016, 156 en 2015. Et moins de 12% de ces meurtres ont donné lieu à l'arrestation de suspects. La lutte contre l'impunité, mais aussi pour une meilleure protection des paysans, militants associatifs, avocats, journalistes, blogueurs, qui tombent sous les balles, est donc essentielle. L'objectif du sommet mondial, qui se réunit à Paris en ce moment, 20 ans après une première rencontre internationale en 1998, et de faire respecter le droit à la liberté d'action des défenseurs et acteurs engagés de la société civile, mais aussi de mettre un coup de projecteur sur celles et ceux qui sont particulièrement ciblés. Quels sont ces défenseurs des droits humains? Ce sont des gens qui s'engagent pour combattre une situation correspondant à une violation d'un droit particulier. Mais ce n'est pas un label. Les profils sont variés, la manière de défendre les droits l'est également. Ainsi, les lanceurs d'alerte sont des défenseurs des droits humains, comme les Martine Landry, militante d'Amnesty International, qui a porté la question du délit de solidarité, comme le sont les jeunes à Hong Kong, mobilisant sur la liberté d'expression et la démocratie, ou en Turquie, une myriade de personnalités défendant un ensemble de droits particulièrement menacés. En décembre 1998, c'est-à-dire il y a 20 ans, un premier sommet rassemblait déjà à Paris 350 défenseurs des droits humains, dont deux prix Nobel de la paix, le Dalai Lama et Rigoberta Menchú. Ils avaient été conviés par Amnesty International, la FIDH, ATD Quart Monde et France Liberté pour témoigner de leur situation et saluer la déclaration des Nations Unies sur le droit et la responsabilité des individus groupes et organes de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. Ce sommet avait consacré un espoir, la reconnaissance d'une réalité, l'ébauche d'un statut protecteur. Mais pour les défenseurs, il faut 20 ans plus tard passer à la vitesse supérieure, faire sortir les États et les entreprises de l'inertie. Car l'indifférence est la validation du permis de tuer. Ils sont victimes d'attaques pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont, résume Katia Arroux, qui prépare avec quelques autres le nouveau sommet. L'objectif donc de ce sommet, c'est de soutenir celles et ceux qui se battent pour la préservation des libertés et des droits humains partout dans le monde. Il faut aider la société civile à s'organiser, contribuer à la protection et au renforcement du travail des défenseurs. Car avec des lois liberticides, comme en Hongrie ou en Égypte, des lois sur le financement des ONG, comme en Russie, des lois antiterroristes, comme en Arabie Saoudite, tout est bon pour traquer les défenseurs. Attaques personnelles, emprisonnement, assassinats, détention arbitraire, disparition forcée, dénigrement, diffamation, harcèlement en ligne, les réduire au silence semble l'objectif principal de nombreux pays. En Argentine, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, aux Philippines, en Thaïlande, des défenseurs des droits nous expliquent qu'ils sont suivis dans la rue, reçoivent des menaces de mort, que leurs proches sont harcelés. On voit d'ailleurs de plus en plus de campagnes de dénigrement. Les défenseurs sont aussi menacés, voire plus encore, par les entreprises, y compris à travers des lobbies parlementaires, quand ils s'attaquent à leurs intérêts. C'est une tendance lourde. Les organisateurs de l'événement qui a lieu à Paris veulent jeter les bases d'un travail commun pour les 20 prochaines années. Un plan d'action sera élaboré à Paris, puis présenté au chef d'État dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre. Donc, tous ces défenseurs et les participants à ce sommet vont travailler pour dégager des pistes d'engagement pour les États, pour les entreprises et aussi pour les organisations intergouvernementales, les institutions financières et les bailleurs. Donc ce sommet, c'est imaginé comme un forum pour se retrouver, se confronter, partager et analyser points de vue et solutions. Vous pouvez d'ailleurs le suivre en direct en allant sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Donc vous pouvez suivre les débats qui ont lieu pendant ces 3 jours à Paris. Voilà, ben on espère que ça va aboutir à une meilleure protection de ces défenseurs qui sont l'espoir d'un monde meilleur. On va maintenant écouter Nougaro dans sa chanson « L'espérance en l'homme ».
Au cours d'une vie qui fut mouvementée, dans un siècle où l'horreur battit ses records, parmi les êtres qu'on a pu rencontrer sur le seuil d'un grand rêve ou dans des corridors, au cours d'une vie de verte et de pas mûre, à se dire quelquefois que le monde est foutu, que l'homme est fou, qu'il va droit dans le mur. Il arrive que cette vie si cruelle et tordue s'ouvre sur un jardin d'odeurs, comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs et les rues. Au cours d'une vie qui fut mouvementée, il arrive qu'un jardin, qu'un simple visage humain, une main ouvre un nouveau chemin. Traversée de voyage au bout de la nuit, à se dire suffit, mais tout de même hanté par la mort qui fait le mort et par le temps qui fuit. S'ouvre tout un jardin d'odeurs, comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme, quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs. D'une vie qui fut mouvementée, il suffit d'une voix, d'un certain regard pour qu'on voit un espoir toujours recommencer. Que l'on croit en l'amour planté sans cesse et replanté dans le cours d'une vie mouvementée. Pardonne, tout se gomme, et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme. Il arrive qu'un jardin, ou qu'un simple visage humain, une main, ouvre un nouveau chemin. Tout se gomme, se pardonne, et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme.
Voilà, alors vous savez que la chronique d'Amnesty International est un journal mensuel qui est disponible à la médiathèque de Digne, puisque le groupe a abonné la médiathèque pour que les usagers puissent le lire. Donc c'est un journal d'information sur les droits humains. Vous avez des articles de fond, des cas pour lesquels il faut écrire, et puis des informations sur ce que font les groupes, les romans qui paraissent, ou les films, les documentaires, qui sont sur le thème des droits humains. Voilà. Donc je vous conseille de regarder à la médiathèque, de feuilleter un peu ces numéros. Alors celui du mois d'octobre, la couverture est un dessin numérique qui a été réalisé par l'artiste Hervé Di Rosa, où on voit une multitude de personnages très différents les uns des autres. Et voilà ce qu'il dit par rapport à son œuvre, qui est en couverture donc de la chronique du mois d'octobre. S'il y a une chose que j'ai apprise dans mon projet autour du monde, c'est que nous sommes différents et que ces différences cachent d'autres différences. Chaque être est un concentré de différences, femme ou homme ou autre, blanc ou noir, né dans un pays riche ou un pays pauvre, immigré ou émigré, hétérosexuel ou homo ou autre, éduqué ou illettré, né en ville ou en banlieue ou à la campagne, riche ou pauvre, avec ou sans enfants, avec armes ou sans elles, vivant au centre ou à la périphérie, en zone de guerre ou pas, tous ces paramètres donnent une infinité de combinaisons possibles, chacune correspondant à une vie. Et ces vies au XXIe siècle deviennent tellement complexes, mobilité, échange d'idées et de personnes, accès immédiat au monde entier, et leur destin tellement inextricable qu'il devient impossible de séparer les caractères des uns et des autres, et que bientôt, il sera impossible d'insulter quelqu'un sans être soi-même victime de cette insulte. Tous uniques en nos genres, nous sommes unis et serons bientôt indivisibles. Mais pour l'instant, nous méritons déjà tous autant que nous sommes le respect des droits et la dignité. Les défenseurs et les défenseuses des droits humains sont des héros très courageux qui ouvrent le chemin en éclaireur. Toutes les offenses et les crimes dont ils sont victimes sont des crimes et des offenses contre chaque être humain, contre l'humanité entière. Et tous les progrès et les droits qu'ils obtiennent dans leur lutte sont des lumières pour chacun d'entre nous. Voilà, c'est un texte d'Hervé Di Rosa, qui est un artiste qui a donné son œuvre pour la couverture de la chronique, disponible à la médiathèque de Digne. Voilà, alors je vais vous parler un peu de l'affaire qui a secoué un peu les médias, de Jamal Khashoggi, qui a été assassiné, vous le savez, à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Voilà ce que demande Amnesty. Les conclusions peu fiables de l'enquête saoudienne ternissent davantage le bilan de ce pays en termes de droits humains. Jamal Khashoggi serait mort au cours d'une rixe à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. C'est ce que relate le rapport d'enquête du parquet saoudien. Les autorités saoudiennes n'ont toujours pas restitué la dépouille de Jamal Khashoggi, afin qu'une autopsie puisse être réalisée par des experts médico-légaux indépendants, dans le respect des normes internationales. Elles doivent également fournir, aux fins d'une enquête indépendante, tous les éléments en leur possession sur la mort de Jamal Khashoggi, afin de déterminer les circonstances de son décès. Quant au gouvernement turc, il doit demander au secrétaire général de l'ONU de diligenter sans délai une enquête sur sa mort et les circonstances qui l'entourent. Sa famille et le reste du monde ont le droit de connaître toute la vérité sur ce qui lui est arrivé et les responsables, quel que soit leur rang ou leur statut, doivent être traduits en justice. Une enquête indépendante serait la seule garantie contre ce qui ressemble de plus en plus à une tentative de l'Arabie Saoudite de dissimuler les circonstances entourant le meurtre de Jamal Khashoggi et contre les manœuvres d'autres gouvernements désireux de balayer les dossiers sous le tapis afin de préserver des ventes d'armement et autres relations commerciales juteuses avec Riyad. Donc Amnesty demande de la vérité pour cet assassinat. Et il y a une pétition en ligne qui demande à faire pression sur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ordonner une enquête indépendante. Donc vous pouvez aller sur le site d'amnesty.fr pour demander que l'enquête soit faite, une enquête vraiment indépendante. Voilà, maintenant on part en Italie avec Marc Perron dans sa musique Voyage. Voilà, alors vous savez qu'Amnesty International a critiqué la France qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, armes qui sont utilisées ensuite dans la guerre que ce pays mène au Yémen, avec des actes qui sont considérés comme des crimes de guerre. Quand, en effet, on bombarde des hôpitaux, des écoles, des quartiers avec des civils, on détruit des familles entières, des enfants, ça s'appelle des crimes de guerre. Et normalement, il y a un traité sur le commerce des armes qui a été signé et qui est rentré en action. Et la France était d'ailleurs un des pays porteurs de ce traité. Et puis, on s'aperçoit que... Elle continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Et de même, la France continue aussi de livrer des armes à l'Égypte, qui est un pays qui réprime ses citoyens dans le sang. Il y a une action en ce moment sur le site d'amnesty.fr que chacun d'entre nous peut faire. C'est celle d'interpeller les parlementaires, nos parlementaires. Il est temps que la France fasse preuve de transparence et exerce un meilleur contrôle sur ses ventes d'armes. Donc il y a plusieurs façons d'interpeller nos parlementaires, sur Twitter, sur Facebook, par mail. Et Amnesty vous donne des propositions de textes sur ces trois réseaux. Je vais par exemple vous lire par mail la lettre que vous pouvez envoyer à votre parlementaire. Je vous écris afin de vous faire part de mes préoccupations au sujet des transferts d'armes de la France à l'Égypte qui ont eu lieu entre 2012 et 2014 et plus largement des ventes d'armes de la France qui n'ont cessé d'augmenter depuis lors, faisant de l'Égypte le premier client de la France. Dans un récent rapport d'Amnesty International intitulé Égypte, des armes françaises au cœur de la répression, nous apprenons que, lors de la répression, des événements ayant suivi le soulèvement du 25 janvier 2011, la France a fourni plus de 200 véhicules blindés à l'Égypte entre 2012 et 2014. Une partie de ces véhicules a ensuite été déployée et utilisée par les forces du ministère de l'Intérieur pour écraser toute contestation. Ce fut le cas lors des événements du 14 août 2013, plus connu sous le nom de massacre de Rabat, au cours duquel des forces de sécurité ont eu recours à une force meurtrière excessive. Personne n'a été amené à rendre des comptes pour les atrocités commises. La dispersion du sitting de Rabat marque un tournant important pour les droits humains en Égypte. Depuis, les forces de sécurité ont intensifié leur atteinte aux droits humains et ont varié leurs méthodes, pratiquant des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires à une échelle jamais vue auparavant. Le 21 août 2013, les États membres de l'Union européenne ont décidé de suspendre les licences d'exportation afférentes à tous les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression en Égypte. Pourtant, de nombreux États membres, dont la France, ont continué à fournir le pays en matériel militaire et de sécurité. Parallèlement, la France négociait, signait et ratifiait le traité sur le commerce des armes. Les transferts de véhicules blindés autorisés par la France n'ont fait l'objet d'aucune publicité du gouvernement auprès du Parlement, ni même concernant leur détournement des forces armées aux forces de sécurité. Je vous demande d'agir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de façon à ce que la France cesse immédiatement tout transfert d'armement pouvant être utilisé à des fins de répression interne. Je vous demande également d'agir afin d'obtenir une véritable transparence du gouvernement envers le Parlement en matière d'exportation d'armes de la France. Nous avons le droit de connaître, par exemple, les types d'armes que la France exporte, à qui et dans quelle quantité. Enfin, je vous demande d'agir afin que le Parlement se dote des moyens de contrôle, des moyens de contrôler les exportations d'armes françaises autorisées par le gouvernement, de façon à s'assurer qu'elles soient conformes aux engagements internationaux de la France, et notamment au traité sur le commerce des armes. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien portée à ma demande et vous prie d'agréer l'expression de ma meilleure considération. Voilà donc une lettre que chacun peut envoyer aux parlementaires qui sont nommés sur le site d'amnesty.fr. On va maintenant écouter une chanson de Julius Bocarn qu'on aime bien dans cette émission. les loups ont une tête de mouton.
Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de mouton, derrière les roses il y a des chardons. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, c'est le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous, un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un pré. Pour le diamant qui s'est gagné, a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusils à deux pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse tomber. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la foule. Une fois qu'il tient, il veut faucher et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Il n'y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, marabouté au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice. Mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas, qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients ensemble changent le cours du temps.
Voilà, maintenant nous allons parler des bonnes nouvelles. On avait commencé un petit peu l'émission par des bonnes nouvelles aussi, et là on continue. Donc une bonne nouvelle qui nous vient du Vietnam, c'est une blogueuse, vous savez que les blogueurs sont souvent pris pour cible. Une blogueuse vietnamienne de renom, My Nam, ça veut dire mère champignon, qui vient d'être libérée et d'arriver en exil au Texas. C'est une bonne nouvelle qui est un véritable soulagement après 2 ans derrière les barreaux. Mais cette bonne nouvelle ne doit pas faire oublier la tendance croissante à l'incarcération au Vietnam, qui jette en prison quiconque critique le régime. Si Mère Champignon n'est plus derrière les barreaux, la condition de sa libération est l'exil. Plus de 100 personnes croupissent encore en prison parce qu'elles se sont exprimées sans violence en public, sur les blogs ou sur Facebook. Nguyen Ngo Nu King, connue sous son pseudonyme de blogueuse Minam, mère champignon, avait été arrêtée le 10 octobre 2016 et détenue au secret jusqu'au 20 juin 2017. Le 29 juin 2017, elle a été condamnée à 10 ans de prison après avoir été déclarée coupable de diffusion de propagande contre la République socialiste du Vietnam, en vertu de l'article 88 du Code pénal vietnamien. Elle est la cofondatrice du réseau des blogueurs vietnamiens, un réseau indépendant fondé en décembre 2013. Mère de deux enfants, elle a été harcelée, arrêtée et interrogée à maintes reprises en raison de ses activités pacifiques et a été empêchée de se rendre à l'étranger. Blogueuse de renom, elle milite en faveur des droits humains et contre l'injustice depuis plus de 10 ans. Voilà, elle vient donc d'être libérée. Une autre bonne nouvelle qui nous vient des États-Unis, c'est l'État de Washington qui devient le 20e État à abolir la peine de mort. La Cour suprême a estimé que cette peine de mort est arbitraire et entaché de préjugés raciaux, ce qui est une évidence quand on s'intéresse à la peine de mort dans les États qui la pratiquent encore aux États-Unis. Voilà des bonnes nouvelles. On va un peu parler de des activités du groupe dinois. Donc on a fait au mois d'octobre une foire aux livres, la foire aux livres d'automne, qui a encore bien marché. Hein, on a nos personnes qui viennent régulièrement découvrir les nouveaux livres qu'on nous a donnés au profit de notre mouvement. Donc c'est toujours deux jours de rencontres intéressantes sur la lecture. Et puis en même temps, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut porter les livres et les ramener. Mais ça se fait avec beaucoup de bénévoles et membres du groupe, et puis aussi des gens, des amis qui viennent nous aider. Et une fois encore, ça s'est très bien passé. Voilà. Le groupe va reprendre ses activités d'éducation aux droits humains dans les établissements scolaires, notamment l'école du Bousquet, on était intervenu l'année dernière dans une classe de CE, et on nous demande de revenir pour parler des droits humains. Et puis on va intervenir aussi au lycée du Sacré-Cœur, où on a participé à un forum des associations. Et puis, bien sûr, l'antenne jeune du Pierre-Gilles Lejeune va reprendre ses activités, avec notamment le point fort des 10 jours pour signer au mois de décembre, où les jeunes lycéens sont très mobilisés et arrivent à obtenir de nombreuses signatures pour les 10 cas que nous présentons. Le groupe dinois viendra les aider une journée au lycée. Et puis, le 8 décembre, nous serons à la médiathèque pour faire signer les pétitions pour les 10 cas. Mais on a le temps d'en reparler. De même, réservez votre date du 25 janvier 2019, parce qu'on va faire un grand concert spectacle multiforme. Il y aura de la poésie, de la danse, des chansons, de la musique. Tout ça autour des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, elle avait été signée le 10 décembre 1948. Ça fait donc 70 ans que ce grand texte de droits humains a été écrit. Et ce sera l'occasion de le redécouvrir, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne connaît pas toujours tous les articles. De le redécouvrir, et toutes les chansons, les poésies seront autour de ces articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, et puis je vous rappelle aussi que le vendredi 2 novembre à 18h30, c'est en dehors du cadre d'Amnesty, mais c'est en lien aussi, hein, puisque la protection de notre planète au niveau environnemental nous intéresse aussi. Il y a le rassemblement le vendredi 2 novembre à 18h30 devant la mairie de Digne de ce groupe de citoyens qui, sous le slogan « Nous voulons des coquelicots », appelle les citoyens à dire non aux pesticides, qui sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont partout et on les retrouve bien sûr dans les bébés qui naissent, chez tout le monde, notamment chez les paysans, bien sûr, qui sont les plus exposés. Et puis, chez les oiseaux, tout ce qui est vivant. Voilà. Donc, ça s'appelle « Nous voulons des coquelicots ». Et vous pouvez rejoindre l'appel. Alors, bien sûr, vous pouvez aller signer la pétition qui est sur le site « nousvoulonsdescoquelicots.org ». Et puis, rejoignez dans les grandes villes, les rassemblements devant les mairies tous les premiers vendredis du mois. Donc, ça sera le vendredi 2 octobre. 2 novembre, pardon. Merci, Odile. On écoute d'ailleurs une des organisatrices de cet événement nous en parler.
Voilà, c'est un reportage qui a été fait donc, et diffusé le 25 octobre dernier. Donc, on l'écoute dans son intégralité.
Des coquelicots plutôt que des pesticides.
Nous voulons des coquelicots, nous ne voulons plus de pesticides. C'est un appel à la résistance et la mobilisation pour l'interdiction de tous les pesticides. Des rendez-vous sont prévus partout en France pendant 2 ans, toute la durée de l'appel, lancé par les salariés de Charlie. Chaque mois, les signataires sont invités à se retrouver le même jour et à la même heure, devant la mairie, sur les places des villes et des villages, des lieux où ils habitent. Chaque premier vendredi du mois, à 18h, et le premier rassemblement a eu lieu vendredi 5 octobre. Se réunir et manifester ensemble en faisant la fête, chansons, musique et partage de repas. À Digne, notre collègue Odile Frison a rencontré Marie-Claire Rulquin.
Marie-Claire Rulquin, Agir Ensemble, qu'est-ce que c'est ?
En fait, c'est une manifestation qui va avoir lieu tous les premiers vendredis du mois pendant 2 ans. L'idée est venue d'un journaliste de Charlie Hebdo. C'est un mouvement citoyen. L'idée, c'est que tout le monde se réunisse pour montrer au gouvernement que nous ne voulons plus de pesticides et que nous voulons vraiment qu'il y ait une loi qui interdise en France tous les pesticides. Donc, chaque premier vendredi du mois, les gens se réunissent devant la mairie de leur ville à 18h30. Chacun vient avec des chansons, guitare, de quoi manger, faire la fête, quoi. Et c'est juste histoire de montrer que l'on est nombreux, donc il faut qu'il y ait plus de personnes possibles, des jeunes, des vieux, tout le monde, tous les citoyens, et dire à ce gouvernement, stop, on ne veut plus de pesticides. Voilà, c'est la seule chose qu'on réclame, on ne demande rien d'autre. Et donc ça aura lieu c'est prévu sur 2 ans, donc notez bien dans vos agendas, tous les premiers vendredis du mois, devant la mairie, 18h30.
Alors, l'histoire du coquelicot ?
Alors, l'histoire du coquelicot, c'est qu'on sait très bien que quand on ne met pas de pesticides dans les champs, les coquelicots reprennent le dessus et viennent. Et donc, c'est joli, c'est beau, tout le monde est ravi de voir tous ces champs de coquelicots. Donc, nous voulons des coquelicots, nous ne voulons plus de pesticides.
Est-ce qu'il y a un site où on peut avoir des renseignements ?
Oui, vous pouvez aller sur le site nousvoulonsdescoquelicots.org. Sur ce site, vous avez une pétition aussi que vous pouvez signer. Et il y a aussi la possibilité de faire des badges soi-même de coquelicots. Le coquelicot, ça sera le signe de ralliement, quoi. Donc, il y a des patrons, vous pouvez faire vous-même vos coquelicots ou vous pouvez les acheter si vous n'avez pas envie de les faire. Mais ce n'est pas une obligation non plus de venir avec son coquelicot.
Voilà, Marie-Claire Rulquin, qui, on le rappelle, est membre d'Amnesty International aussi.
Aussi, oui.
Voilà.
Alors, un petit rappel, demain, mardi, à 18h, nous avons notre réunion de groupe. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent voir comment ça se passe, une réunion de groupe d'Amnesty, ils peuvent se joindre à nous. Donc, à 18h, mardi 30 octobre, dans une des salles des associations, à côté de l'Atrium, le grand bâtiment de la mairie de Digne. Et puis, on va terminer par une chanson qui est un clin d'œil aux coquelicots, qui s'appelle « Le temps des bleuets », parce que les bleuets, avec les coquelicots, sont des fleurs qui sont le signe que la terre sur laquelle ils poussent est une terre vivante qui n'a pas été tuée par les pesticides. Et donc, nous voulons des coquelicots et nous voulons aussi des bleuets. C'est de Philippe Forcioli.
Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets, Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Il n'y en a plus dedans nos terres, il n'en est plus au champ de blé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Ça voudrait dire que la terre, elle est sauvée. Que la chimie et que la finance n'ont pas tout tout à fait bouffé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Petite étoile à la crinière du mois de mai. Coquelicot de sang, mon frère, tu as bien fait de résister. Si le retour du petit frère est annoncé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Tous les enfants, les pauvres ont droit à leur bouquet. Pour les mamans, les filles, les vierges, ce brin de printemps en beauté. Ce doux baiser couleur de ciel, les bleuets. Lundi, c'est pas demain la veille. Un autre, c'était hier déjà. Il est grand temps que la merveille reprenne sa place ici-bas. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleus. Et l'on verra tous les poètes décorés d'une turquoise végétale de l'ordre de la fleur des prés. Est-ce la pinazzouli? Non, c'est un bleuet. Oui, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Oui, c'est une obsession païenne, un couplet. Dans les refrains de mon enfance, à tout bout de champ était chanté. Et moi, j'imaginais que France était bleue. Bleu et bleu et bleu et blanc comme fossé. Le drapeau de Marseille, Méditerranée. J'ai beau vous voir fleurir sur mer, je vous préfère aux champs de blé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Les bleuets, milliers de sources souterraines retrouvées. Que sur les chemins on égrène simples poèmes en chapelet. Que reviennent les temps bohèmes, la marguerite dit je t'aime. Le coquelicot j'en mourrais. Et toi, qu'en diras-tu bleuet? Et toi, qu'en diras-tu bleuet? Et lui, et moi, oh. Rien qu'un tout petit bouton d'or à la clé.
Au revoir à tout le monde et venez nous rejoindre.
Donc le 2 vendredi devant la mairie à 18h30.
Voilà.
Au revoir Régis et puis
au
mois prochain pour la prochaine émission sur les droits humains. Merci, au revoir.
La première semaine de novembre, Orinoco nous entraînera en plein cœur de Paris. Entre le carreau et le baltard, les bistrots et les petites pépées, les cloches et des tonnes de victuailles, dans ce grand marché nocturne qui anima les halles jusqu'à la fin des années 60. Le ventre de Paris, comme l'appelait Zola, s'est évanoui pour toujours, laissant derrière lui un gouffre de souvenirs et de nostalgie.
Une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Bay.
Ne manquez pas ce rendez-vous.